aujourd'hui, on se plonge dans la grande transformation de l'économiste hongrois Karl Polanyi, un ouvrage écrit en 1944. Et c'est Jérôme Maucourant qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Lyon. Vous êtes l'un des grands spécialistes de Karl Polanyi. Vous avez notamment écrit « Avez-vous lu Polanyi ?» paru il y a quelques années aux éditions de La Dispute. Et vous êtes par ailleurs maître de conférence en sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors la première grande théorie de Polanyi dans cet essai qui constitue sans doute son œuvre la plus aboutie, c'est que l'économie s'est désencastrée, un terme qui revient souvent sous sa plume, c'est-à-dire que l'économie s'est détachée des autres institutions sociales dans lesquelles elle se fondait et a pris une place dominante et autonome avec ses règles et sa logique propre. C'est ce phénomène qui constitue, selon Polanyi, cette grande transformation dont il fait le titre de son essai.
Vous êtes au cœur du problème, mais en même temps cette formulation est très compliquée. C'est-à-dire que Polanyi ne dit pas que l'économie est réellement autonome, en fait. Ce qu'il dit, il dit que c'est une utopie sombre. Il dit que c'est une tentative de construire effectivement l'économie comme en dehors du social. Et c'est parce que cette tentative est vouée à l'échec que effectivement la civilisation libérale s'est effondrée, notamment en 1929. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses entre un projet social qui finalement est l'expression d'une certaine mentalité collective, d'un moment de civilisation, et le fait de réellement construire quelque chose de cet ordre-là.
Pour lui, le marché, c'est une construction historique récente, finalement, qui date du 19e siècle. Et l'homo economicus, donc calculateur, motivé par le gain, là encore, c'est le produit d'une nouvelle culture politique apparue au 18e siècle.
Alors, ce qu'il dit précisément, notamment, alors, vous avez cité La Grande Transformation, mais dans un ouvrage plus récent que j'ai réédité avec mon ami italien Michele Cangiani, qui est aussi spécialiste de Polanyi, c'est que les marchés sont très anciens, en réalité. Ce qui est nouveau, c'est le fait de connecter ces marchés entre eux, en quelque sorte, pour qu'ils forment un système qui a une vocation, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en réalité ne réussit pas vraiment, mais en tout cas c'est bien ce que les promoteurs du marché qui sont marqués par ce qu'ils appellent la mentalité de marché veulent faire. Donc c'est effectivement cette idée de faire du marché un système autonome. Mais c'est vrai, le marché est ancien. Le grand marché, one big market, comme il l'appelle, ça, c'est tout à fait récent. Et pour lui, ça se constitue en Angleterre quand un véritable marché du travail est créé, c'est-à-dire qu'on supprime les lois sur les pauvres et on force effectivement la force du travail à subir les aléas du marché. Quand on considère que l'homme est une marchandise comme une autre et que ce nom de l'homme dans la pensée marchande, c'est le travail. Donc on considère finalement que le travail est une marchandise. Alors là, on a effectivement une étape décisive de la création du grand marché. Ce qui est important, c'est que Polanyi souligne que, en réalité, le travail, c'est le titre d'un de ses chapitres, est une marchandise fictive. L'homme, la nature, la société n'ont pas été produites pour être vendues. Mais dans le système de la civilisation utilitariste marchande, on fait comme si. Et donc cette fiction de la marchandise a des effets absolument redoutables, mais en même temps, il faut le dire, du point de vue de la production marchande elle-même, cela a eu des rendements tout à fait extraordinaires également. Et donc, pour conclure sur ce point, Polanyi nous dit que économiquement, il y a pu y avoir des réussites, mais culturellement, il y a eu des catastrophes.
Karl Polanyi est également anthropologue et il montre que cette autonomisation de la sphère économique, c'est un phénomène culturel et politique que l'on ne constate pas, par exemple, dans les sociétés primitives.
Oui. Et alors il se dit en cela, dans sa recherche guidée par Aristote, il pense qu'Aristote avait l'idée, je crois assez juste, que l'économie est en principe effectivement immergée dans le social. Mais c'est vrai que l'anthropologie lui a donné plutôt raison de ce point de vue-là. C'est vrai que cette idée de soumettre tout à une logique économique fondée sur des marchés concurrentiels, à la rationalité utilitariste, c'est en réalité extrêmement récent. Il remet finalement cette invention dans la longue durée de l'histoire humaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette invention-là pouvait obéir à certaines nécessités. Alors, ce qu'il explique, c'est que effectivement, dans une société déjà marchande, quand le machinisme se développe, je pourrais revenir sur ce point, on peut avoir c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, un emballement de ce système d'interconnexion et de construction de marché. Ça, c'est vrai. Mais pour réaliser ce projet d'une société très largement marchandisée, Polanyi insiste sur un point qu'on appelle dans la pensée économique le mercantilisme, c'est-à-dire que les États européens, qui étaient en conflit permanent, dont l'objet était de capter un maximum de ressources monétaires, ont poussé effectivement à la multiplication des marchés. Hein. Car quand il y a des marchés, la fiscalité peut intervenir et à partir de là, effectivement, on peut payer des mercenaires, payer des armées régulières et financer des guerres qui le sont. Donc il y a eu des progrès concomitants, si vous voulez, de l'État, de la guerre, de la rationalisation de celle-ci, des marchés. Et au bout d'un moment, effectivement, et ça c'est ce qui se passe avec la grande révolution des machines au 18e, 19e siècle, et c'est en cela effectivement que l'Occident va différer très largement du reste du monde, eh bien le machinisme va accélérer le processus de marchandisation.
Et alors, Jérôme Maucourant, dans La Grande Transformation, Karl Polanyi propose une thèse originale sur la montée du fascisme à laquelle il assiste depuis la Grande-Bretagne. Le fascisme, dit-il, n'est pas un simple outil de la bourgeoisie pour perpétuer son pouvoir ou un courant réactionnaire ou conservateur. C'est d'abord et avant tout un effet de la crise de la société de marché. Et là, on retrouve son autre grand apport, c'est la théorie du double mouvement qui estime qu'il n'y a pas de libéralisme sans contre-coup. Le fascisme serait donc un contre-coup du libéralisme.
Oui, vous êtes une très bonne lectrice. Un certain texte qu'on a aussi publié avec Michele Cangiani aux éditions du Seuil dans les essais de Polanyi montre un Polanyi journaliste qui produit beaucoup d'analyses sur le fascisme, le nazisme, et petit à petit, il va construire cette pensée qui va aboutir à ce que vous décrivez. Alors, en réalité, la grande transformation a comme sous-titre aux origines politiques et économiques de notre temps. Et il le dit d'emblée, je veux comprendre pourquoi il y a eu ce qu'il appelle le fascisme allemand. On dirait nous le nazisme. C'est la grande interrogation du temps. Et il dit, ben voilà, je propose une hypothèse qui peut sembler extravagante pour certains, en tout cas extrêmement brutale. Il y a un lien qui existe entre l'Angleterre de Ricardo, c'est-à-dire effectivement ce machinisme couplé avec ces sociétés utilitaristes marchandes qui va se développer très très vite, et les destructions culturelles et sociales que cela va impliquer, et précisément ce contre-mouvement catastrophique que le fascisme va incarner au XXe siècle. Alors, c'est une thèse qui est assez importante, qui a été discutée. Son propre frère, qui lui était un intellectuel, on dirait néolibéral, pensait au contraire que, en réalité, s'il y a eu des réactions fascistes, c'est que la petite bourgeoisie avait peur du communisme. Et donc, apeurée en fait par la menace bolchevique, elle s'est jetée dans les bras donc de l'extrême droite. Ce sont des thèses d'ailleurs qui ont été reprises bien par la suite par un historien allemand qui s'appelle Ernst Nolte. Voilà. Donc les deux frères s'affrontent sur ce sujet et je pense que Polanyi a comme avantage sur son frère qui s'appelait Michael Polanyi de proposer une histoire de deux siècles qui nous permet de rendre plus justement compte de cette grande causalité. Alors, je reviendrai sur l'histoire du double mouvement. En effet, il y a eu, durant l'époque mercantiliste, c'est-à-dire en gros 16e, 17e, 18e siècle, une politique des États d'institution des marchés. Mais ensuite, et Polanyi comprend que, et il le dit d'ailleurs, que la pensée libérale traditionnelle s'est totalement trompée sur ce point, faire marcher des marchés, si j'ose dire, c'est compliqué. Il faut une réglementation, il faut que l'État intervienne, car sinon, immédiatement, les conséquences pour la main-d'œuvre, penser au travail des enfants, penser à l'environnement, penser même à la gestion de la monnaie, serait catastrophique. Donc en fait, ce que montre Polanyi, c'est assez original, c'est que la marchandisation va de pair avec l'intervention publique. C'est quelque chose qui est toujours allé de pair, en quelque sorte. C'est-à-dire, dès que le marché, on le croit, commence à marcher à nu, mais en fait, l'État et tout un certain nombre de codifications sociales permettent au système de marché de continuer. Ce qui se passe, nous dit Polanyi, c'est là une dialectique qui peut être négative, c'est qu'un certain nombre effectivement de contre-mouvements suite à ces mouvements d'institution du marché peuvent déstabiliser le système. Donc la dialectique du double mouvement peut engendrer effectivement des catastrophes dont le nazisme en est un.
Mais alors ce qui est intéressant et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que cette théorie, dans cette théorie du double mouvement de Karl Polanyi, donc selon laquelle il n'y a pas de libéralisme sans contre-coup, le contre-coup peut être le fascisme ou, à l'autre bout de l'échiquier politique, l'État-providence.
Absolument. C'est-à-dire que ils ont en commun ces deux tentatives, en quelque sorte, d'admettre que la coupure entre les institutions politiques et économiques de la société n'est finalement pas tenable. Alors évidemment, c'est pour faire des choses assez différentes. Mais à chaque fois, enfin Polanyi l'a dit, il y a une question de défi vital qui est adressée aux sociétés. Et donc, alors le problème, c'est que c'est intéressant, dans le cas du nazisme, effectivement, c'est une reprise en main par le système de la propriété privée, il le dit très clairement, ça, de l'ensemble du système politique et de l'extermination de toutes les formes de démocratie qui peuvent exister dans ce système. Donc on a une sorte de système politico-économique un peu monstrueux qui se crée, qui est finalement la réponse pathologique à une séparation qui était non moins artificielle entre le politique et l'économie. Mais effectivement, s'il s'agit de contrecarrer les effets pervers de cette séparation en quelque sorte problématique, on peut faire autrement. Alors, il y a des choses beaucoup moins inquiétantes, mais très révélatrices. Par exemple, George Bush lui-même avait dit, il avait reconnu que pour sauver la libre entreprise en 2008, eh bien il fallait mettre entre parenthèses les règles de la libre entreprise. Vous savez, ce sont ces interventions massives sur le marché des changes, l'intervention du Trésor américain. Non, ça c'est une façon de prouver, mais la crise, le symptôme le prouve, qu'en fait le politique est toujours là. Et c'est pourquoi je crois Polanyi a eu fondamentalement raison de dire que le libéralisme qu'il a connu est mort définitivement. Les types d'interventions que, par exemple, on connaît sur les marchés monétaires et financiers étaient totalement inconcevables à l'époque du libéralisme économique traditionnel. Donc, il avait raison de penser qu'on ne reviendrait jamais au libéralisme de type classique, qui est définitivement mort dans les années 30.
Qu'est-ce que Polanyi préconise ? Comment redonner au marché sa juste place dans la société, Jérôme Maucourant ?
Mais il faut le subordonner, en quelque sorte. Et on peut dire que Polanyi est un penseur de la social-démocratie naissante. Alors, pour subordonner les marchés, il faut effectivement qu'il y ait une sphère politique qui puisse fonctionner. Et là, il lance un autre débat contre les libéraux sur la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il a bien repéré que beaucoup de penseurs libéraux et très conséquents, d'ailleurs dans le néolibéralisme, c'est ce qu'on va développer, qui pensent que les idées de souveraineté sont absolument ridicules. Certains pensaient même que le niveau d'interdépendance économique atteint en 1913 rendrait toute forme de guerre impossible. Vous remarquerez que c'est assez drôle, si l'on peut dire, de regarder ça rétrospectivement. Et Polanyi dit, en fait c'est ça, les libéraux ont du mal avec les concepts collectifs de nation et de souveraineté, donc lui, il en appelle précisément, alors notamment, ça c'est pour son époque, à la fin de l'État noir, c'est-à-dire un mécanisme d'émission monétaire qui soit déconnecté et des volontés nationales et donc des pouvoirs politiques particuliers.
Et aujourd'hui, quel est selon vous l'héritage des écrits de Karl Polanyi, Jérôme Maucourant ? En quoi il serait peut-être toujours d'actualité selon vous ?
Alors, pour moi, il est d'actualité parce que la matrice du néolibéralisme, c'est tout de même le libéralisme. Sauf que effectivement, on a pu rationaliser ce système compte tenu des failles et des catastrophes qu'il a produites, mais l'esprit du marché est là d'une certaine façon. Et cette critique quant au principe est tout à fait nécessaire. On peut dire, alors c'est assez multiforme, si vous voulez, c'est-à-dire que Polanyi, c'est celui qui avant tout le monde dit que le monde n'est pas une marchandise, par exemple. C'est celui qui dit que la monnaie doit être gérée démocratiquement. Il nous explique que le travail ne peut pas être laissé aux aléas du marché, etc., etc. Et la terre, bien évidemment, il a des phrases très importantes sur le fait que la nature ne saurait survivre dans un mécanisme utilitariste marchand. Donc on peut dire qu'il peut être à l'arrière-plan d'un certain nombre de critiques essentielles qui sont adressées à la société de marché, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croit fondamentalement à la politique et donc qui défend cette idée de la souveraineté contre justement ce qui serait un peu la pensée marchande accomplie, c'est-à-dire la souveraineté des peuples du monde contre la souveraineté du capitalisme ou du marché.
Un grand merci Jérôme Maucourant. Je rappelle votre livre « Avez-vous lu Polanyi ?» paru aux éditions de La Dispute. Et un grand merci également à Claire Vuillot depuis les bureaux de Radio France à Lyon.